VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, bienvenue à cette édition du mercredi 9 septembre 2015. Bagassi Koura et Anne Albertson en votre compagnie. Au sommaire ce matin.
Les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants dans une mine du sud-est de la République démocratique du Congo après un éboulement qui aurait coûté la vie à 13 personnes.
7 personnes ont été tuées et 12 blessées dans l'ouest de la Guinée après un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies.
Au Kenya, les autorités annoncent avoir mis la main sur 3 hommes munis d'une bombe artisanale.
Ici aux États-Unis, les autorités de Baltimore vont verser 6,4 millions de dollars à la famille d'un jeune noir mort après son arrestation par la police. Et bien sûr, vous aurez la minute éco et le sport, c'est dans une dizaine de minutes.
Les services de secours congolais recherchaient mardi d'éventuels survivants dans une mine du sud-est de la République démocratique du Congo après un éboulement qui aurait coûté la vie à 13 personnes. Joint par l'AFP, le ministre des Mines du Katanga, Odak Sompo, a refusé de donner un bilan de cet accident survenu lundi dans la mine de cobalt de Mabaya, près de la frontière zambienne, à environ 80 km au sud de Lubumbashi. Cette mine est exploitée par des creuseurs artisanaux, autrement dit des mineurs clandestins. Il serait jusqu'à 10 000 à risquer leur vie dans cette mine à la teneur particulièrement riche.
7 personnes ont été tuées, 12 blessées dans l'ouest de la Guinée après un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies qui ont détruit des ponts, des habitations et des plantations. Selon un communiqué du gouvernement cité par l'AFP, dans la nuit de dimanche à lundi sur la côte ouest de la Guinée, ce glissement de terrain sur 3 lambeaux du flanc d'une montagne a rasé tout le village de Kolonkola, un village de 480 habitants.
Laurent Gbagbo restera en prison à La Haye jusqu'au début du procès prévu pour le 10 novembre. Les juges de la Cour pénale internationale ont rejeté hier la demande de libération provisoire de l'ancien président ivoirien.
Hissène Habré était le cerveau et l'animateur de la répression sous son régime. C'est ce qui ressort de l'acte d'accusation à l'encontre de l'ex-président tchadien. L'ordonnance lue devant le tribunal spécial africain qui les juge à Dakar exposait notamment les spoliations et tortures infligées aux détenus.
Au Kenya, les autorités annoncent avoir mis la main sur 3 hommes munis d'une bombe artisanale. Ces suspects ont été arrêtés dans le quartier de Kasarani à Nairobi où se trouve le Garden City Mall. Le point avec Eddie Isango.
Les 3 hommes ont été pris avec un engin explosif improvisé, détecté à un point de contrôle, affirment les autorités kenyanes. Des démineurs l'ont fait exploser, a indiqué le chef de la police locale, Robinson Mboloi, responsable du quartier Kasarani. Les suspects ont été arrêtés près du Garden City Mall, considéré comme le plus grand centre commercial d'Afrique de l'Est qui a ouvert cette année. La sécurité est renforcée dans les quartiers commerciaux au Kenya depuis l'attaque en septembre 2013 du centre commercial Westgate de Nairobi. Les islamistes somaliens Shebab s'étaient emparés de ces centres pendant 4 jours et avaient tué 67 personnes. Depuis, ils ont multiplié les attaques en reprochant à Nairobi son intervention militaire en Somalie. Ils ont notamment revendiqué les massacres du 2 avril qui a fait 148 morts à l'université de Garissa, dans le nord du Kenya.
L'armée nigériane a interdit l'usage des chevaux dans l'état de Borno pour tenter de mettre un terme aux attaques du groupe Boko Haram. Le point avec Dili Diko.
L'interdiction de l'usage des chevaux dans l'état de Borno a été annoncée par le colonel Tukur Gusao, porte-parole de l'armée, après des discussions avec le gouvernement et un conseil de chef traditionnel. Cette décision fait suite à des attaques de combattants présumés de Boko Haram à la fin août dans 3 villages du nord-est. Des hommes à cheval ont tué au moins 80 personnes et quelques jours plus tard, des dizaines de personnes ont été tuées dans une attaque similaire. Le porte-parole militaire a d'autre part précisé que l'avancée de l'armée dans la région avait bouleversé l'organisation des islamistes en coupant leur voie de ravitaillement, y compris en carburant. Selon lui, les terroristes ont alors été obligés d'abandonner leurs véhicules et d'utiliser des chevaux pour mener leurs attaques.
La mortalité infantile dans le monde a été divisée par deux en un quart de siècle, mais seulement 62 pays sur 195 ont atteint les objectifs fixés par les Nations Unies dans ce domaine. C'est ce qui ressort des chiffres de l'ONU diffusés ce mercredi. La mortalité globale des enfants de moins de 5 ans a été réduite de 53% ces 25 dernières années, mais pour de nombreux pays, la cible fixée dans le cadre des objectifs du millénaire n'a pas été atteinte, selon cette étude publiée mercredi dans la revue médicale britannique The Lancet.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des centaines de migrants ont forcé hier le cordon de police hongroise à la frontière avec la Serbie en plusieurs incidents distincts et les policiers ont fait usage de gaz au poivre pour contenir un des groupes. Selon l'AFP, ces personnes faisaient partie d'un groupe d'environ 1500 hommes, femmes et enfants exaspérés d'avoir attendu plusieurs heures à un point de rassemblement à Ruske, dans le sud de la Hongrie, d'où les migrants sont conduits à un centre d'accueil et d'enregistrement pour demandeurs d'asile. Par ailleurs, face à l'afflux massif et ininterrompu de réfugiés, l'Allemagne a appelé l'Europe à ouvrir davantage ses portes, Jacques Aristide.
La Commission européenne doit faire aujourd'hui une proposition pour la répartition de 120 000 migrants. Ce n'est qu'un premier pas, selon la chancelière allemande Angela Merkel, qui appelle à un système plus ouvert de quotas obligatoires pour ces personnes qui ont un droit à l'asile. La seule petite île grecque de Lesbos accueille plus de 20 000 candidats à l'exil, soit le quart de sa population. La Grèce, débordée, permet à ces migrants de passer vers la Macédoine, la Serbie, la Hongrie ou encore l'Autriche pour rejoindre leur destination rêvée, l'Allemagne. Ce pays s'attend à 800 000 demandes d'asile rien que cette année. Le gouvernement britannique propose d'accueillir 20 000 migrants sur 5 ans. La France pourrait accepter 24 000 réfugiés dans les deux prochaines années. Federica Mogherini, qui dirige la diplomatie européenne, a appelé tous les pays européens à agir avec le même courage, même de l'autre côté de l'Atlantique, le Venezuela, le Brésil et le Québec se disent prêts à participer à cet élan de solidarité.
Et en Uruguay, les premiers réfugiés syriens accueillis l'an dernier manifestent pour quitter le pays. Mais plusieurs pays d'Amérique latine s'affirment disposés à accueillir des milliers de migrants fuyant les conflits au Moyen-Orient.
Et ici aux États-Unis, les autorités de Baltimore vont verser 6,4 millions de dollars à la famille d'un jeune noir mort après son arrestation par la police. Cette mort avait déclenché des émeutes dans cette ville portuaire de l'est des États-Unis. Morgan Guiriec.
Le département des affaires juridiques de Baltimore va proposer aujourd'hui au Board of Estimates, qui supervise le budget, de verser plus de 6 millions de dollars pour clore toutes les poursuites au civil après la mort de Freddie Gray en avril dernier. La maire de la ville, Stephanie Rawlings-Blake, ajoute que cela ne doit pas être interprété comme un jugement de la culpabilité ou de l'innocence des policiers actuellement devant la justice pénale. D'ailleurs, le tribunal pénal de Baltimore a rejeté mercredi dernier les recours présentés par les 6 policiers. Freddie Gray, un jeune noir, a été victime le 12 avril d'une grave blessure pendant son transport, pieds et mains liés, dans un fourgon de police. Il est décédé une semaine après son interpellation musclée. Sa mort avait déclenché des manifestations parfois violentes à Baltimore contre le racisme et les brutalités policières.
Et toujours aux États-Unis, Hillary Clinton s'est excusée hier pour avoir utilisé une boîte mail privée lorsqu'elle était secrétaire d'État. Pour elle, il s'agissait d'une erreur. Madame Clinton s'est servie exclusivement d'un système de messagerie privée installé par ses propres soins lorsqu'elle était secrétaire d'État entre 2009 et 2013.
Plus de 20 complots terroristes ont été déjoués à New York depuis le 11 septembre 2001 et la probabilité d'attentat est actuellement plus grande qu'elle ne l'a été depuis des années. C'est ce qu'a déclaré hier le chef de la police, William Bratton, cité par l'AFP. New York doit marquer vendredi le 14e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001.
Actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco et ce matin, c'est avec Claire Morin-Gibault.
La directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, se rendra à Monrovia, au Libéria, les 10 et 11 septembre pour évoquer le soutien à ce pays après l'épidémie d'Ebola. La fin de la transmission du virus Ebola vient d'être officiellement déclarée dans le pays par l'Organisation mondiale de la santé le 3 septembre dernier. L'épidémie a tué près de 4000 personnes sur plus de 10 000 cas. La 4G en République démocratique du Congo dès 2016, c'est en tout cas l'objectif affiché de Smile Telecom qui a, selon l'agence Reuters, effectué une levée de fonds de 365 millions de dollars pour développer ses réseaux très haut débit sur le continent. Addis Abeba est la ville la plus chère d'Afrique en matière d'hôtellerie. Selon une étude du cabinet de recherche STR Global, les hôtels de la capitale éthiopienne ont les tarifs les plus élevés du continent. Dans une interview au magazine Le Point Afrique, Thomas Emmanuel, directeur du développement de STR Global, explique qu'Addis souffre d'un manque de grands hôtels et que les prix s'en ressentent. La situation s'est d'autant plus tendue que l'économie éthiopienne est en croissance rapide de plus de 10% par an.
C'était la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg. Merci Claire. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, c'est l'heure des sports et on retrouve Jacques Aristide. Bonjour Jacques.
Bonjour Bagassi, bonjour à tous.
Les clubs engagés en Ligue des Champions et en Europa League vont donner 1 euro par billet vendu lors de leur première rencontre européenne pour venir en aide aux réfugiés.
C'est ce qu'a annoncé l'Association européenne des clubs de football, l'ECA, qui vient de réélire l'Allemand Karl-Heinz Rummenigge pour 2 ans à sa tête. Cette décision prise à l'unanimité fait suite à une initiative du FC Porto, a ajouté le patron du Bayern Munich. Le football doit prendre sa part de responsabilité. Les clubs doivent apporter leur contribution pour aider les réfugiés. Un problème grave et sérieux, a-t-il dit. Ce sont 80 clubs qui y participeront, alors que les 140 autres membres qui ne prennent pas part aux coupes européennes peuvent également contribuer à ce programme. Le Real Madrid a déjà annoncé qu'il allait donner 1 million d'euros pour les réfugiés accueillis en Espagne. Le Bayern Munich a également annoncé diverses initiatives, dont un don d'1 million d'euros pour des projets destinés aux migrants.
Football en Afrique, le Sénégal dans le viseur de la Namibie.
La fédération namibienne envisage de faire appel à la Confédération africaine de football pour trancher sur l'admissibilité ou non de 2 des 18 joueurs du Sénégal lors du match qui a opposé les deux pays samedi dernier. Rencontre comptant pour la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2017 et qui s'est soldée par la victoire des Lions 2-0 face aux Namibiens. Toutefois, avant même le début du match, le pays hôte, par le truchement de son capitaine Ronald Kédidjéré, avait déposé une plainte contre la participation des Sénégalais Henri Saïvé et Issa Sissoko qui auraient fait le déplacement selon la Namibie avec des passeports français. Le président de la fédération namibienne, Frans Bidi, a déclaré que quand la Namibie avait demandé de voir les passeports de ces deux joueurs, on nous a dit qu'ils ne disposent pas de passeport et c'est la raison pour laquelle ils ont quand même pu jouer selon les règlements de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour sa part, le secrétaire administratif de la fédération sénégalaise, Victor Sis, a déclaré que tout avait été fait d'après les règles et qu'il n'y avait aucun risque de perdre les points. Affaire à suivre.
Oui, Jacques, football toujours, un joueur veut quitter Monaco pour devenir imam.
Oui, Yaruba Sissako, international français sous contrat Monaco, envisage d'intégrer une équipe dans un pays de culture islamique. Un proche du latéral droit de 20 ans a déclaré au journal Le Parisien que Sissako veut devenir imam. Il souhaite ainsi quitter la principauté de Monaco. Les dirigeants monégasques avaient entamé des négociations avec le club turc de Galatasaray, basé à Istanbul, sans que rien n'aboutisse. Le club serait aujourd'hui en discussion avec plusieurs formations du golf intéressées.
En tennis, la numéro 1 mondiale Serena Williams s'est qualifiée pour les demi-finales de l'US Open en battant sa sœur aînée, Venus Williams, en 3-7, 6-2 1-6, 6-3. Et puis Jacques, le Suisse Roger Federer, est le troisième joueur assuré de participer au Masters de fin de saison après sa qualification pour les quarts de finale de l'US Open.
Oui, Federer rejoint le numéro 1 mondial Novak Djokovic et Andy Murray qui avaient déjà empoché leur billet pour le rendez-vous. À 34 ans, Federer verra sa 14e participation consécutive au Masters qu'il a remporté à 6 reprises.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bagassé Koura au micro. Le Monde aujourd'hui place maintenant au dossier du jour. En Guinée, les médias publics et privés sont interdits de retransmettre en direct les meetings et manifestations des candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre. C'est l'une des décisions de la HAC, la Haute Autorité de la Communication de Conakry. La correspondance de Zakaria Camara.
Les réactions sont diverses. Oui pour le contrôle des médias, non à la restriction. Peut-on ainsi résumer les propos de quelques citoyens?
Les médias sont très importants pour la diffusion des informations en ce qui concerne les résultats aussi des élections ou autre chose. Mais ce qui est très important, c'est le contrôle des messages.
Quand même s'ils pensent que ça peut diminuer l'attention des gens, c'est une bonne chose. Mais...
Tu ne dois pas interdire les gens de diffuser leur meeting politique? Bon, ils n'ont pas le droit de diffuser sur les radios nationales parce que c'est le gouvernement qui gère tout ça. Mais les radios privées, ils ont le droit de diffuser ce qu'ils ont envie de diffuser.
Sûrement pour de bonnes raisons, pour essayer de coordonner les choses. Il ne faut pas que les résultats soient donnés de façon désordonnée parce que c'est un moment fragile, sensible, donc je crois que tout ça doit être coordonné. Bon, si la HAC joue ce rôle, il n'y a pas de problème.
Le problème, il y en a pourtant, estiment certains journalistes, à l'image de ce rédacteur en chef à la radio Lynx FM. Azo Kaba trouve inacceptable l'interdiction de diffuser les résultats de l'élection présidentielle.
Je pense que c'est une grosse restriction de la liberté des médias à communiquer aux électeurs les résultats d'un vote. Du moment où le vote a été fait, les résultats sont affichés. On ne peut pas interdire à un média de faire écho de ces résultats qui sont officiellement affichés en précisant le numéro du bureau de vote et en précisant les suffrages obtenus par chaque candidat.
La Haute Autorité de la Communication qui a procédé hier au tirage au sort pour le passage des candidats au journal de la campagne a aussi interdit la radio Baobab et la télé Face au TV d'émettre pour des raisons, dit-elle, d'autorisation. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Le financement des élections de 2015 et 2016 en RDC sera au centre de la session budgétaire qui s'ouvre le 15 septembre prochain à Kinshasa. Selon le président de l'Assemblée nationale de la RDC, des contraintes budgétaires pourraient pousser à modifier l'actuel calendrier électoral. Aubin Minaku, qui est également le secrétaire général de la majorité présidentielle, rassure par ailleurs que Joseph Kabila cédera bien son fauteuil à un autre président élu après ces élections présidentielles. On l'écoute au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Les élections vont nous coûter une bagatelle de plus de 800 millions de dollars. Mais ce que je peux vous certifier, c'est qu'il n'y a pas mauvaise voie. Parce que vous savez, quand vous parlez élections en République démocratique du Congo, c'est plus de 30 millions d'électeurs sur une étendue de 2 345 000 km². Ça signifie que nous ne devons pas avoir un fixisme outré sur les dates qui pourrait paraître même stupide à certains égards. Il faut évaluer en tenant compte notamment des aspects budgétaires. La CENI devra nous répondre, mais si la CENI estime qu'il y a des contraintes, notamment d'ordre financier, ça ne doit pas bloquer la République. Actuellement, il y a un président de la République qui va remettre les tabliers à un autre président de la République élu. S'il arrive que les élections soient organisées en décembre 2016 et qu'un autre président est élu, ça va de soi puisque nous sommes dans un état de droit. Mais l'essentiel, c'est de savoir dialoguer pour le bien-être de nos populations.
On reste en RDC pour évoquer les travaux de cette commission mixte d'experts congolais et rwandais pour redéfinir les frontières de 1911 entre les deux pays. Les autorités ont entrepris de dégager les constructions illégales dans la zone neutre séparant la ville de Goma en RDC et celle de Gisenyi au Rwanda. La zone neutre censée mesurer 6,25 mètres de part et d'autre Côté congolais déjà, les pioches et bulldozers rasent les habitations pour assainir cet espace envahi et séparé seulement d'un sentier. Reportage de Charlie Kasereka à Goma.
Nous sommes sur un sentier, c'est ce qui restait de la zone naître censée mesurer en tout 12 mètres. Au moins 200 ménages seront frappés par la mesure. Déjà, certaines maisons construites anarchiquement dans la zone sont par terre. C'est un grand bulldozer qui fait le travail sans pitié. Au milieu des pleurs et des grognements des habitants du quartier Birere, le long de la frontière rwando-congolaise, dont certains y vivent depuis plus de 30 ans maintenant. Ces familles passent la nuit à la belle étoile et ne savent plus à quel sens se vouer.
En fait, nous sommes derrière la petite barrière.
Bon, moi je suis derrière.
Non, donc ma parcelle commence par ici. Maintenant, quand on est en train de nous démolir comme ça, sans rien nous indemniser, vraiment ce n'est pas normal. Ça, c'est la violence des domiciles quand même.
Moi, je suis un habitant d'ici parce que mon père existe ici et même avant 1960. Bon, tous nos objets sont en cours de route et donc nous ne voyons pas l'endroit où nous pouvons même les déposer. Oui, toute la terre appartient à l'État, mais même si ça appartient à l'État, quand même l'État doit faire quelque chose pour sa population. Beaucoup d'enfants sont ici, sont en train de dormir à l'extérieur, pas même de la nourriture, tout ça.
Roger Rachid Itumbula, l'un des experts de la RDC dans cette commission mixte rwando-congolaise, chargée de redéfinir la frontière tracée depuis 1911. Pour lui, il est temps de restaurer l'ordre sur cette frontière.
Bon, l'objectif, c'est reconstituer les bornes frontières entre le Congo et le Rwanda, identifiées depuis 1911. Donc nous, on n'a rien inventé, parce que sur les 22 bornes identifiées, on a déjà construit 14. Il restait les 8 bornes où la population était en train d'occuper l'espace neutre qu'on vient de dégager. La limite n'est pas rectiligne. Je crois que les gens qui ont construit sur l'espace de la zone neutre, ils étaient conscients. Quand quelqu'un construit, met la borne dans sa chambre à coucher, tu crois qu'il ne sait pas qu'il y a une borne là-bas? Mais il dit, l'État n'existe pas. Alors un matin, l'État doit se réveiller.
Maître Jean-Paul Lumbulumbu, notable de la province Nord Kivu, et qui suit de près ces dossiers, pour lui, la démolition ne devrait pas précéder l'indemnité.
Je ne peux pas comprendre que les services de l'urbanisme arrivent, par exemple, à autoriser à quelqu'un de bâtir, et que même l'État perçoive des impôts fonciers sur une parcelle. Lorsqu'il s'agit d'une expropriation pour cause d'utilité publique, il y a une procédure à suivre. C'est que d'abord, il faut contacter l'intéressé. Après l'évaluation, la prochaine étape, c'est l'indemnisation. L'indemnisation doit précéder la démolition ou l'acquisition.
Mais c'est Rachid Itumbula de la commission mixte indique tout de même qu'une aide sociale d'une somme de $100 américains sera donnée aux familles des Guerpik par les autorités congolaises. Charlie Kasereka, Goma pour VOA Afrique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Le gouvernement burkinabé a lancé cette année 102 concours directs équivalents à 9 773 places. Il y a eu plus de 655 000 postulants et c'est dans l'attente des résultats que le poteau rose des fraudes a été découvert. Le gouvernement dit avoir circonscrit l'ampleur de cette fraude, toute chose que réfute un comité des jeunes unis pour l'annulation et la reprise des concours qui a fait un sitting ce mardi avec le soutien des organisations de la société civile. Reportage à Ouagadougou de notre correspondant Zoumana Wonogo.
La fine pluie qui a arrosé Ouagadougou ce mardi n'a pas eu raison de la détermination du comité des jeunes unis pour la reprise des concours entachés de fraude. Ils se sont mobilisés devant le ministère de la fonction publique pour délivrer leur message qu'on écoute avec leur porte-parole Moussa Herman Konkoubou.
Exiger l'annulation et la reprise des concours concernés par les cas de fraude. Exiger le démantèlement de ce réseau mafieux de fraudeurs. Ensuite, exiger que les autorités trouvent des mots d'évaluation qui correspondent au profil des candidats. Quatrièmement, que le cabinet épinglé par ces cas de fraude-là paye le préjudice causé à l'État et qu'il soit exclu de la commande publique. Enfin, nous exigeons également que la base de recrutement de ces concours-là soit élargie.
La fraude rompt l'équilibre des chances entre les candidats. Et pour Ismaël Traoré, le président de l'Association des étudiants handicapés, la peine est plus que doublée.
C'est plus qu'une double peine. C'est-à-dire le handicap déjà, c'est un
manque de chance. Maintenant, si à un certain niveau, maintenant, ceux même qui doivent travailler ne sont pas recrutés dans les règles du jeu, ça devient assez compliqué. Pour nous, les personnes handicapées, nous n'avons pas de boulot, nous sommes la couche la plus délaissée dans la fonction. D'ailleurs, même, nous sommes en train de revendiquer nos droits depuis longtemps au ministère de la fonction publique pour qu'on puisse intégrer les personnes handicapées, pour qu'on puisse accepter d'appliquer la loi concernant le quota des personnes handicapées qui représente 10% dans la loi. La loi dit qu'il faut 10% des concours de la fonction publique dédiés aux personnes handicapées, mais jusqu'à aujourd'hui, le ministère de la fonction publique refuse de l'appliquer.
Sur la balance, le gouvernement burkinabé a mis le coût de la reprise et le timing de la transition. Le RENLAC, Réseau national de lutte anticorruption, qui est un soutien du comité des jeunes, célèbre contre cet aspect financier. Son secrétaire exécutif adjoint, Sagado Nakanabo.
Qui représente des milliards par rapport à l'honorabilité de la fonction publique. Si vous recrutez seulement 10 fonctionnaires pourris, ce que ça va représenter pour l'avenir de notre pays. Pour réparer cela, même s'il faut utiliser toutes les ressources du Burkina Faso, c'est mieux de le faire. Parce que si on ne fait pas ça, on va construire sur du sable. Et ça, ça ne paye pas.
Le gouvernement burkinabé promet trancher la question ce jeudi après examen en Conseil des ministres. Zoumana Ounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
Alors, le monde entier a célébré hier mardi la journée internationale de l'alphabétisation sous le thème « Vision de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle dans un contexte de développement substantiel ». En Guinée-Bissau, la cérémonie a eu lieu au siège de la Ligue Bissau-Guinéenne des droits humains. Le point avec Noah Mankali.
Profitant de la célébration de cette journée internationale de l'alphabétisation, Ariane Gogné, présidente de l'ONG Pamoja Guinée-Bissau, a laissé cet appel au monde entier pour soutenir la Guinée-Bissau afin de lutter contre le haut taux d'analphabétisme dans ce pays. Ariane Gogné.
L'appel va plutôt vers tous les acteurs de l'alphabétisation et nos gouvernants. Il faut qu'on s'unisse. Il faut que nos gouvernants sachent que l'éducation formelle et l'éducation informelle vont ensemble. Il ne faut pas privilégier seulement l'éducation formelle. Il faut penser aux deux secteurs. Parce que l'éducation informelle vient compléter l'éducation formelle. Qu'il le veuille ou non, nous avons une population où tout le monde ne peut pas avoir accès à l'éducation formelle de façon systématique. Mais tout le monde peut avoir accès à l'éducation informelle pour pouvoir rehausser le niveau. Parce que l'éducation informelle, beaucoup de gens, la population, la majorité de la population est dans ça. L'économie de la Guinée-Bissau, il dépend. L'évolution, le développement de la Guinée-Bissau, il dépend. Il y a plusieurs programmes qu'on est en train de développer ici en Guinée-Bissau. Heureusement, et ça fait plaisir.
C'était Ariane Gogné, présidente de l'ONG Pamoja Guinée-Bissau, qui intervient dans le secteur de l'alphabétisation non formelle en Guinée-Bissau. Nouaman Kalibissau, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur la reprise mouvementée du procès d'Hissène Habré au Sénégal. L'ex-président tchadien est jugé pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et de torture. Quels en sont les enjeux? Le procès d'Habré, le premier d'un ex-dirigeant africain dans un autre pays du continent, servira-t-il d'exemple? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Sing a song about the heartland.
C'est tout pour cette édition. Anne Alberson a dirigé la mise en onde, présentation Bagassi Koura. Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com.